le journal de Margot Delpierre que je salue. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Après la faillite de Thomas Cook, l'industrie du tourisme redoute un effet domino. Exemple, en Crète, 70% des hôtels de l'île ont un contrat avec le voyagiste britannique, nous expliquera Élise Delève.
Comment osez-vous, a demandé hier la militante écologiste Greta Thunberg aux dirigeants réunis à l'ONU pour le sommet sur le climat. Elle les accuse de n'avoir que des paroles creuses, vous l'entendrez.
Pour améliorer la prise en charge des victimes de violences conjugales, des expérimentations sont menées. Reportage au tribunal de Créteil où l'on tente de traiter les demandes de mesures de protection le plus rapidement possible. Un site désigné comme pilote à l'occasion du Grenelle. Et après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Margot, un scandale sanitaire comme celui du Mediator est-il encore possible ? Je poserai la question à Bruno Toussaint, il est directeur éditorial de la revue médicale indépendante Prescrire.
De l'Espagne à Cuba, 600 000 vacanciers clients de Thomas Cook font leurs valises. Après la faillite du voyagiste britannique annoncée hier, c'est l'heure du rapatriement. La Grèce figure parmi les pays les plus touchés avec 50 000 vacanciers concernés. Les acteurs du tourisme s'inquiètent et ils ont bien raison. Ils profitaient jusqu'ici beaucoup des clients de Thomas Cook, Élise Delève.
La faillite de Thomas Cook est un désastre. Le président de l'organisation du tourisme de Crète, Mikalis Vlatakis, est horrifié. C'est un tremblement de terre de magnitude 7 et le tsunami va arriver. Sur son île, 70% des hôtels ont un contrat avec l'agence britannique. À l'hôtel Anissa, à l'est d'Héraklion, on reste pourtant calme. Catalina Nicoloudag est l'une des responsables de l'établissement. 45% de sa clientèle voyage avec Thomas Cook.
Bien sûr que nous avons peur. C'est un tour opérateur international. On parle d'une crise mondiale. Ce n'est pas une agence locale. Jusqu'à présent, nous n'avons eu aucun souci avec Thomas Cook. C'était notre meilleur partenaire. Tout était parfait. Les réservations, leur nombre, les paiements, on n'avait pas de problème.
Et que va-t-il se passer avec les réservations en cours ? Catalina s'inquiète.
Est-ce qu'ils vont payer ? Est-ce que c'est une compagnie d'assurance qui va payer ? Est-ce que cela va couvrir tous les frais ? On attend.
Ce qui réconforte Catalina, c'est que les touristes qui choisissent les séjours clés en main ne vont pas subitement changer de façon de voyager. Elle est certaine que la majeure partie des clients allemands qui remplissent les 312 chambres de son hôtel vont continuer à venir avec un autre tour opérateur.
Et le sort des 20 000 employés de Thomas Cook reste incertain. 9 000 sont en Grande-Bretagne et risquent pour la plupart de se retrouver au chômage. Ce qui a précipité la chute de Thomas Cook, c'est la concurrence acharnée des sites internet de voyage à bas prix, mais aussi le flou qui entoure le Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue le 31 octobre, divise les militants du Parti travailliste. Ils sont réunis en congrès à Brighton. Hier, le patron du Labour, Jeremy Corbyn, a remporté une victoire. Les délégués ont voté en faveur de sa motion sur le Brexit. Elle prévoit de conserver la neutralité du parti sur ce sujet, Marie-Pierre Véro.
Les travaillistes ont donc décidé de ne rien décider. Jeremy Corbyn a obtenu le soutien de ses troupes malgré la défection d'un important syndicat qui avait rejoint les rangs des partisans d'un maintien dans l'Union européenne et d'une campagne claire en ce sens. Corbyn l'a emporté face aux Remainers, dont la motion a en outre été balayée. Il souhaite, lui, maintenir l'ambiguïté du Labour, ni pour ni contre, le plus longtemps possible, afin de ne perdre aucun sympathisant. Les électeurs travaillistes sont en effet, à l'image du pays, très divisés sur le Brexit. Mais c'est un parti justement encore plus divisé qui va sortir de ce congrès de Brighton. Beaucoup dans la salle ont crié au scandale après le vote à main levée. Et surtout, c'est un parti sans ligne claire face aux plus importants défis qu'affronte la Grande-Bretagne ces dernières années. Ces atermoiements s'apparentent à un jeu dangereux quand les plus fervents européens quittent le Parti travailliste pour rejoindre les libéraux-démocrates et que les conservateurs de Boris Johnson caracolent en tête des sondages.
À noter qu'après 3 jours d'audience, la Cour suprême britannique dira ce matin si le Premier ministre était dans son droit quand il a suspendu le Parlement pour 5 semaines. Boris Johnson est accusé de l'avoir fait juste avant la date théorique du Brexit pour museler l'opposition. À 16 ans, elle a délivré un message enflammé à la tribune de l'ONU. Très émue, la militante écologiste suédoise Greta Thunberg a interpellé hier la soixantaine de chefs d'État réunis à New York pour le sommet consacré à l'urgence climatique, un discours percutant d'à peine 5 minutes dont voici un extrait.
How dare you? Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses.
Your empty words. And yet
Je fais pourtant partie de ceux qui ont de la chance. Les gens souffrent, ils meurent. Et des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et des contes de fées de croissance économique éternelle. Comment osez-vous ?
La jeune icône Greta Thunberg à la tribune de l'ONU hier, en route vers New York pour ce sommet, le président français Emmanuel Macron a fait une réflexion qui a du mal à passer. Le chef de l'État a conseillé aux jeunes d'aller manifester en Pologne pour faire bouger les lignes. Le pays ne progresse pas sur les questions environnementales. Varsovie, qui a bloqué l'objectif de neutralité carbone pour 2050, fait figure de mauvais élève européen, mais n'aime pas pour autant qu'on lui fasse la leçon. La correspondance en Pologne de Thomas Giraud.
Nous tirons les leçons des erreurs françaises. En réaction aux critiques d'Emmanuel Macron, le ministre des Affaires européennes polonais tacle en retour le président français. Konrad Szymański rappelle au chef de l'État que la crise sociale des Gilets jaunes a débuté après une hausse d'une taxe environnementale sur les carburants. La Pologne veut mener à bien sa transition climatique d'une manière différente, plus douce, explique le ministre. Et il rappelle que c'est bien son pays, la Pologne, qui a accueilli la dernière grande conférence climat, la COP24, l'an dernier. Son collègue au ministère, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Szymon Szenkowski, renvoie aussi Emmanuel Macron à ses problèmes de politique intérieure. Nous ne conseillerons pas aux manifestants de se rendre en France, car il y en a déjà suffisamment. Ajoutant aussi qu'il commence à être fatigué des sorties du président français contre la Pologne.
Emmanuel Macron, à son tour, accuse l'Iran d'être responsable de l'attaque du 14 septembre contre des installations pétrolières saoudiennes, avec la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre britannique Boris Johnson. Il demande à Téhéran de s'abstenir de toute nouvelle provocation. L'Iran, que Donald Trump accuse depuis le début d'avoir perpétré ces attaques, le président américain est très attendu aujourd'hui. Il prendra la parole à l'Assemblée générale des Nations Unies.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. En plein Grenelle contre les violences conjugales, le gouvernement demande à la justice d'améliorer la prise en charge des victimes.
109 femmes sont mortes depuis le début de l'année, d'après le recensement du collectif Féminicide par compagnon ou ex. Pour éviter ces drames, plusieurs sites ont été désignés pilotes. La justice y expérimente des solutions, comme par exemple au tribunal de grande instance de Créteil, présenté comme un exemple pour les filières d'urgence et où s'est rendue Diane Berger.
La procureure de la République, Laure Bécuot, se souvient d'un cas précis le mois dernier. Une victime de violence conjugale, placée en moins de 48 heures sous ordonnance de protection, une mesure qui permet par exemple de lui proposer un logement et d'interdire au suspect de l'approcher. Cette rapidité, elle est permise par la méthode du tribunal de grande instance de Créteil.
Le parquet s'efforce de transmettre tous les éléments des enquêtes qu'il a en cours pour constituer les dossiers. Le bureau d'aide juridictionnelle qui accompagne au niveau financier le fait que la victime puisse être assistée d'un avocat réagit dans les 48 heures. Le barreau du Val-de-Marne a une permanence mobilisée tous les matins pour accompagner cette victime de violence conjugale. Bref, à tous les niveaux, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou noir au fond duquel disparaîtrait une victime qui serait en grave danger, elle et sa famille.
Pour Françoise Brier, directrice de Solidarité Femmes, cette collaboration des différents services de la justice est encourageante, mais d'autres mesures devront être mises en place pour améliorer la situation.
Ce qui sera important, c'est qu'on ait des pôles spécialisés au niveau des juridictions civiles. Effectivement, à la fois pour l'ordonnance de protection, mais aussi pour les séparations, les divorces, tout ce qui va toucher à l'autorité parentale. Après, se pose la question, évidemment, du nombre de magistrats, de greffiers. Il faut qu'on ait effectivement un renforcement de ces dispositifs sur tout le territoire français.
L'efficacité de la filière d'urgence de Créteil sera évaluée dans les mois qui viennent par le ministère de la Justice. Elle pourra ensuite être généralisée au reste de la France.
Reportage de Diane Berger pour France Culture. Un ancien garde des Sceaux devant la justice, Jean-Jacques Urvoas, sera jugé jusqu'à la fin de la semaine pour violation du secret professionnel. L'ancien ministre de François Hollande est accusé d'avoir informé illégalement le député Thierry Solaire d'une enquête préliminaire pour fraude fiscale le concernant. Les faits remontent au printemps 2017, Anne Fauquemberg.
C'était entre les deux tours de l'élection présidentielle. L'ancien ministre socialiste est accusé d'avoir envoyé, via la messagerie cryptée Telegram, une fiche d'action publique à Thierry Solaire. Un document administratif donc faisant état de l'enquête préliminaire concernant le député ex-LR désormais passé chez LREM. Un élu qui recevra aussi un courriel d'actualisation de cette fameuse fiche. Alors, un garde des Sceaux doit-il être soumis au secret professionnel ? La question paraît naïve, mais elle est loin d'être évidente dans dans le contexte français du lien de subordination entre le parquet et la chancellerie. Le procès à la Cour de justice de la République sera d'ailleurs particulièrement suivi par les magistrats. Céline Parizeau est la présidente de l'USM, l'Union syndicale des magistrats.
Dès lors qu'il a des remontées d'informations qui lui sont faites via les parquets et les parquets généraux, il se voit transmettre des informations qui sont confidentielles. Si lui-même n'est pas tenu par le secret professionnel et donc par le respect de la confidentialité de ces informations, on a un vrai problème. Ça veut dire que celui qui est à la tête de la hiérarchie du parquet ne serait pas tenu au secret professionnel, alors que tout le reste de la hiérarchie le serait.
La défense de Jean-Jacques Urvoas s'entend s'arrêter longuement sur le statut de ses fiches d'action publique pour démontrer, je cite, qu'elles ne peuvent contenir aucune information protégée au titre d'un secret prévu par la loi. Jean-Jacques Urvoas qui ajoutait dans son communiqué en avril dernier qu'aucune norme ne prévoit de secret professionnel inhérent aux fonctions de garde des Sceaux.
Anne Fauquemberg. La compagnie aérienne française XL Airways a été placée hier en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Bobigny laisse aux éventuels repreneurs jusqu'à samedi midi pour déposer leurs offres. 5 jours pour faire un miracle, espère le PDG. Quant à Aigle Azur, autre compagnie placée, elle, en liquidation avec poursuite d'activité, le tribunal de commerce d'Evry a commencé hier à examiner les offres déposées. Le trafic ferroviaire est perturbé aujourd'hui. Comptez 2 intercités sur 5, 3 TER sur 5 et seulement 1 Transilien sur 2. Conséquence d'un appel à la grève, des agents de la SNCF se mobiliseront aujourd'hui pour dire non à la réforme des retraites voulue par l'exécutif. On y reviendra avec l'invité des matins de France Culture à partir de 7h40, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Le temps aujourd'hui est pluvieux sur la moitié nord de la France avec des rafales de vent de 60 à 70 km/h sur les côtes de la Manche, nuageux sur la moitié sud. Les températures cet après-midi seront de 16 degrés à Lille, 19 à Paris, 21 degrés à Bayonne et Bordeaux, 22 à Lyon, 24 degrés à Toulon et jusqu'à 27 à Fréjus-Guillaume.
Merci Margot Delpierre, 7h12 sur France Culture. Dans quelques instants, un scandale sanitaire comme celui du Mediator est-il encore possible ?